J'ai vu qu'il commençait ciné-ado.
Oui.
C'est chouette.
Oui.
T'as toujours des surprises dans cette édition. C'est toujours un plaisir.
Je ne sais pas si on s'entend.
C'est là ? Oui.
Moi, j'ai bon là.
Oui, oui.
Et toi, Muriel ?
Oui, c'est bon. Ça y est. Ça y est, ça y est. Je vous ai.
We are going to see.
Let's go see.
So j'espère que vous avez reconnu le générique de Zoom & Co, votre rendez-vous ciné bimensuel à Millau. Une émission animée aujourd'hui par Esther du cinéma de Millau.
Bonjour.
Ouais, elle nous a dit bonjour. Elle remplace Muriel qui fait un petit peu de mécanique aujourd'hui pour sauver la salle 3. Bon, on croise les doigts.
On est derrière avec elle.
Hein,
on est
derrière. Une pensée pour elle.
Donc animée aussi par Annick du Club Ciné.
Bonsoir,
bonjour. Bonjour, bonsoir, on regardera, c'est comme vous voulez, il y en a qui travaillent de nuit. Hein. Avec notre invité habituel maintenant, hein. Il a pris ses marques.
Bonjour, ravi.
Et qu'on reçoit avec grand plaisir.
Tu ne l'as pas cité.
Et il ne reprenait pas.
Je ne suis pas permis de le faire.
Ah là 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 là, bon. Et votre serviteur, hein, Didier, vous l'avez compris, il est en pleine forme aujourd'hui.
Super.
Voilà, j'ai l'impression. Donc une première partie qui va être consacré à l'animation cinéma de la MJC. Hein, on a la chance d'avoir une fantastique MJC, et le cinéma en profite, grâce à des leçons de cinéma, moi c'est comme ça que je l'appelle, qui sont animées par...
Par moi, Esther Marchandet.
Ah, Esther, ouais, ce qui explique qu'elle soit là. Et puis des programmations du Club Ciné, intelligemment choisi par Annick et animé par
Par
Pierre.
Tous, en fait. Hein,
par tous,
les, mais tous les adhérents avec, du Club Ciné.
Ouais, mais de temps en temps, agrémenté de commentaires.
Et on a le plaisir, justement, de recevoir de temps en temps notre maître conférencier, on va l'appeler,
bon.
Pierre-Emmanuel, qui nous aide à comprendre quelquefois plus profondément les films qu'on présente, ce qui est très bien, des films de patrimoine et tout ça. Donc, on le remercie énormément.
Donc, on a une expérience d'une saison, presque. Hein. Mmh. Donc là, ce serait intéressant que vous nous en parliez. Vos objectifs, ce que vous en retenez, et est-ce qu'on pourrait faire encore mieux dans les mois qui viennent ?
Ce qui est de bien, c'est qu'on a commencé l'année dernière avec une idée tout à fait nouvelle qu'Esther a portée, c'était l'analyse filmique. Mmh. Donc rapprocher les gens justement de ce que construit un film, comment le réalisateur le construit. Elle avait choisi super bien d'ailleurs, donc toute l'année c'était différents réalisateurs à chaque fois. Et donc on a eu beaucoup de gens intéressés dans ce programme, et je pense que sans dévoiler, sans faire un scoop, je pense que l'année prochaine ça va continuer à attirer beaucoup de gens. Donc Esther, tu peux nous dire comment ça s'est passé, les cours que tu as donnés?
Alors justement, tu l'as très bien dit, c'était de l'analyse filmique, donc vraiment sur le fait d'arriver à comprendre pourquoi on comprend les histoires des films et comment ils se construisent et pourquoi on arrive si bien à interpréter ce qu'on voit, puisque finalement un film c'est quoi à part des images mises bout à bout et qui créent une histoire. Donc là, techniquement, j'ai pas encore tout à fait fini mon année parce que j'ai eu malheureusement un empêchement sur un de mes cours, donc j'ai mon tout dernier cours qui est reporté au 21 mai, là, jeudi 21 à 18h à la MJC, encore une fois, pour parler de Julia Ducournau, qui est la dernière réalisatrice dont on parlera.
Super.
Donc on avait parlé notamment de Quentin Dupieux, des frères Coen, Francis Ford Coppola et Greta Gerwig. Donc ça a été intéressant à chaque fois de se baser un peu sur chaque réalisateur et réalisatrice pour parler d'un aspect en particulier des films, que ce soit le montage, le scénario, les dialogues. Ou là, par exemple, dans le cadre du Courneau, l'horreur, particulièrement d'un point de vue féminin, parce que je trouve ça intéressant aussi de parler du point de vue des femmes et de parler de pourquoi c'est... c'est important d'avoir des femmes réalisatrices. Ça s'est très bien passé. Franchement, moi, j'ai été ravie de l'expérience.
Je crois que tout le monde, oui.
Je te remercie encore, Annick, d'avoir proposé l'idée.
Mais c'est intéressant aussi parce qu'on découvre aussi les premiers films de réalisateurs qu'on connaît. Par exemple, Greta Gerwig, on ne savait pas qu'elle avait fait...
Lady Bird, par exemple.
Lady Bird, par exemple, qui est un film absolument magnifique. Mm-hmm. On se bloque sur Barbie en essayant de pas... Et on découvre avec toi, justement, leur première réalisation. Ça, c'est intéressant.
Ouais. Et là, dans ce cas-là, par exemple, avec Greta Gerwig, ce qui a été bien pour les personnes qui sont passées outre, justement, un peu l'idée reçue de Barbie, qui peut être un film un peu vu comme un peu creux, c'est que là, j'ai mis en comparaison Lady Bird et Barbie pour parler de la manière dont Greta Gerwig réalise les femmes, les sujets qu'elle aborde sur le passage à la vie adulte, voilà, exactement, les relations entre femmes et la pression de la société. Et en fait, on voit que dans les deux films, alors qu'il y en a un qui est très indépendant et l'autre qui est très gros budget hollywoodien, en fait, on retrouve les mêmes pattes artistiques en fait dans les deux et puis ça m'a permis de parler aussi du mouvement du mumblecore qui est un mouvement un peu underground avec très peu de moyens et qui se fait du coup mumble, c'est marmonner, donc c'est beaucoup basé sur le dialogue et sur le fait de pas très bien prononcer les choses finalement mais ça se base aussi beaucoup sur ce côté un peu indépendant, un peu des acteurs souvent non professionnels, peu de moyens, des décors réels, etc. Et du coup, à côté, on a Barbie qui est que des décors plastiques complètement créés, des dialogues très travaillés, vraiment tout est millimétré. Du coup, c'était intéressant, voilà, dans l'exemple de regarder ces différences-là. J'ai adoré faire le parrain aussi sur le cours de Coppola parce qu'on a vraiment vu, lui pour le coup le montage c'est une règle du cinéma, c'est vraiment un cas d'école à analyser et c'est hyper intéressant. Et ce qu'il y a de bien aussi que j'ai comme retour, c'est que ça donne aux gens envie de découvrir ou redécouvrir les films, parce que même si on en parle, on les décortique et on les voit vraiment de bout en bout, quoi. Je spoil les films, mais c'est le risque à prendre et qui va être réglé si on continue bien l'an prochain, parce que du coup j'espère bien continuer l'an prochain cette fois-ci sur la plaquette officielle, parce que comme je suis arrivée un peu à la dernière minute, ça a été fait
de la MJC,
la plaquette officielle de la MJC. Ouais. Donc cette fois-ci, on aura aussi plus de cours certainement sur toute l'année, et on va repartir sur cette idée d'analyser des films, mais cette fois-ci les films on les passera aussi au cinéma en amont du cours.
Petit scoop.
Voilà. Donc on est en train de préparer une programmation de films un peu de patrimoine, des films cultes. Donc moi j'ai repéré quelques trucs comme Memento, Les Choristes, Lady Vengeance, Shaun of the Dead, et un peu plein de choses
très différentes.
Perfect Days aussi, que tu apprécies, Annick. Ouais. Voilà, donc j'ai essayé de prendre un peu plein de styles et de choses différentes dans ce qui nous était disponible. Donc je suis en train de voir avec ça, et du coup on va essayer de passer le film en salle qui sera présenté par une petite vidéo, et ensuite on fera un cours plus tard dans le mois à chaque fois pour que...
Ah, c'est une super idée. Et ça donne vraiment envie, ça. Ouais. Voilà.
Toujours sur un thème.
Toujours sur un thème, toujours avec un film, et c'est de parler pourquoi ce film-là est intéressant. Perfect Days, c'est hyper intéressant parce que même si c'est un film allemand, Wim Wenders, c'est quand même du slow cinéma, très japonais, du coup. Donc, ça peut être l'occasion d'en parler.
C'est sur l'architecture des Vespasiennes, effectivement, c'est un thème
exactement, sur les nettoyer les toilettes.
On devrait en prendre exemple.
C'est l'origine du film, d'ailleurs. Un documentaire sur l'architecture des...
Et il est très intéressant au niveau de ce rythme très lent, des dialogues aussi qui sont très rares. Enfin, c'est très poétique. À côté,
il y a de la musique aussi.
Et oui, la musique est très belle.
Ça, c'est intéressant aussi.
Il y a de quoi faire un quiz aussi. Ouais. Plus facile.
Ouais, c'est vrai.
Mais voilà, et après des choses comme Memento qui sont très intéressantes sur le montage, qui est à l'envers du coup comme film, donc c'est pareil. En fait, à chaque fois, il y aura une bonne excuse pour reparler du film en long, en large, en travers. Donc,
Et pourquoi le réalisateur décide justement de le faire de cette manière-là, et ça, c'est intéressant aussi.
Alors, moi, j'en parle, justement, ça c'est intéressant, j'en parle un tout petit peu en général de qu'est-ce que le réalisateur a voulu faire, mais moi, je pars toujours du principe, parce que je suis analyste dans mes études, et l'analyse filmique, elle part toujours du principe que le film n'appartient plus à son réalisateur à partir du moment où il le donne aux salles de cinéma. Et Et donc moi, mes analyses, elles se basent un petit peu, je regarde un peu qu'est-ce que le réalisateur a voulu faire, mais il y a beaucoup, c'est beaucoup de mon interprétation personnelle, et je trouve ça intéressant, et j'invite aussi à chaque fois mes élèves à interpréter par eux-mêmes, ça, et des fois ça donne des points de vue auxquels j'aurais pas forcément pensé, mais qui sont hyper intéressants, parce que c'est le but de l'échange, et aussi c'est tout l'intérêt des films, c'est que notre culture, notre vécu, notre âge influence la manière dont on voit les films, et on les interprète pas tous de la même manière.
Tout à fait, notre ressenti, ouais,
voilà,
tout à
exactement.
Fait. Mais ça se voit quand on va au cinéma ensemble avec des groupes et quand on ressort et chacun a ressenti le film de manière totalement différente. Et c'est intéressant à ce moment-là, c'est là d'intérêt d'aller au cinéma d'ailleurs.
Tout à fait.
Parce que, voilà, parce qu'on peut changer à ce moment-là.
Pierre-Emmanuel, tu es d'accord sur le fait que le film n'appartient plus à son réalisateur dès lors qu'il est monté ?
Moi, je dirais plutôt, oui, effectivement. D'abord, il appartient d'une certaine manière au spectateur. Alors, au spectateur qui le vit dans son expérience individuelle, mais aussi collective, effectivement, il faut bien le dire. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il appartient aussi à son époque. C'est-à-dire qu'avec le recul, on peut aussi comprendre pourquoi un film a cette lumière. C'est parfois à cause des pellicules qui étaient les pellicules dominantes à l'époque, par exemple. C'est à cause des techniques. C'est très intéressant aussi de voir en quoi les techniques, les caméras existantes, les canons esthétiques d'une époque aussi peuvent conditionner un film. Donc, bien sûr, il appartient au réalisateur, à son auteur, mais le film dépend énormément de tout un environnement technique, social, esthétique.
Et
est aussi à analyser.
Oui, je vois, et alors ça me fait penser. Et alors on voit le même film quand on est dans son canapé devant la télé ou dans une salle. C'est pas du tout la même chose. Enfin, évidemment, c'est pas pareil, la même ambiance. Mais est-ce que c'est le même film ? Est-ce que, l'image...
Et même avec l'endroit, selon si on a faim, si on est fatigué, si on a une rupture amoureuse, on peut voir le même film 20 fois et pas le ressentir de la même manière, selon tout un tas de choses. En fait, c'est ça la beauté du cinéma.
Oui, tout à fait.
Et surtout, on ne le voit pas de la même façon à la troisième vision et à la première. Ça compte aussi beaucoup.
Tout à fait.
C'est ça qui est bien, c'est de pouvoir vivre avec un film. Ce qui pose aussi la question de le voit-on uniquement au cinéma ou le voit-on aussi chez soi ?
Puisqu'il
y a la question de la manière dont on le visionne.
C'est un espèce
dont on peut le visionner.
C'est un espèce de juge de paix, d'ailleurs, quand on a vu un film au cinéma. Bon, on l'a aimé, hein. On le revoit chez soi et on l'aime encore et même plus fort. Là, je me dis, bon, là, ça doit vraiment être un excellent film.
Mais t'arrives exactement le contraire. J'avais vu un film lusophone, justement, c'était Portrait fantôme. Et
je l'ai vu. Ouais. Ouais, il est beau, très très beau.
Voilà, et quand j'ai reçu le lien, je l'ai regardé sur mon internet. Je me suis ennuyée, mais vraiment, je me suis dit, je l'envoyais. Et quand je l'ai vu sur grand écran, là, j'ai été prise justement il était fascinant ce film. Perception différente selon l'écran sur lequel tu le regardes, c'est aussi compliqué. On ne sait pas trop. Donc, la magie du cinéma l'opère toujours.
Ça, ce sera un débat alors. Hein.
Ouais. Ah, après, y a des films qui sont faits pour le grand écran.
Oui, c'est vrai. Parce qu'un film en plan serré, champ contre champ, on peut le voir à la télé. Quoi. Mm-hmm. Par contre, le film dont tu parlais, le film brésilien, là, il y avait. J'aime pas le mot les paysages parce que on n'aime pas un film parce qu'il y a des beaux paysages, mais ça reflétait quand même complètement le milieu socio-économique des personnages, hein, qui n'étaient d'ailleurs pas des acteurs. Hein, et là, c'était vraiment extraordinaire.
Et on se promenait justement, et on faisait partie justement de ce film quand on le regardait. On était vraiment plongé dans cette atmosphère et on se sentait très proche de ce réalisateur justement en le regardant. Donc voilà, compliqué.
Quand tu dis qu'un film en plan serré peut se voir à la télévision, moi j'ai été très surpris en revoyant Vol au-dessus d'un nid de coucou au cinéma.
J'ai eu la même.
Nombre de plans serrés en réalité.
Oui.
C'est un film qui est à la fois ample dans son cadrage, mais il y a énormément de plans serrés, c'est presque un film intimiste. Bon, c'est le style de Forman. Hein, mais
C'était le style de Forman que je ne connais pas suffisamment, mais c'était flagrant. Hein. Oh là là, de voir ces acteurs qu'on a adorés, débutants presque, hein, quand même, parce que Jack Nicholson. Mais c'est vrai que. Parce que c'est souvent maintenant, on critique un film, enfin,
à tort sans doute, mais oh, il n'y avait que des chants contre chants, c'est pas un bon metteur en scène. Bon, et là, alors là, à contrario, ça démontrait à quel point ça peut être une... C'est pas une recette, quoi. Ça peut être un fondement ou pas. Bon, ça dépend des sujets, sans doute.
Complètement.
Et alors, ton intervention au cinéma, là, Pierre-Emmanuel, sur les films que tu as choisis, Annick, ou que vous avez choisis ensemble.
Oui.
Alors moi, j'ai un avis, hein, comme consommateur de ça, mais toi, ton expérience...
En tant qu'expérience, ce que je dirais... D'abord, c'est une invitation qui a été faite. Donc, effectivement, de mon point de vue, c'est une expérience...
Par une société secrète.
Voilà, qui a été faite par les ciné-clubs et qui, donc, de mon point de vue, est vraiment une expérience vécue. Ce que je dirais qui est agréable, c'est de commenter des films que je n'ai pas choisis. Alors, le prochain... Je l'ai choisi, mais espérons que...
On en avait parlé.
...qui sera retenu.
J'aime
bien l'idée de ne pas choisir les films.
Oui, ce que tu avais dit.
Dans la mesure où ça m'oblige à les voir ou à les revoir. Alors, les trois films sur lesquels je suis intervenu, La soif du mal d'Orson Welles, que je n'avais pas vu depuis une bonne dizaine d'années à peu près. Blow Up de Antonioni, qui est un film que je n'avais vu qu'une fois il y a 20 ans. Et le dernier, c'est La fin du jour de Duvivier, le dernier en date. La fin du jour de Julien Duvivier, qui est un cinéaste dont je n'avais vu jusque-là que deux films. Et j'ignorais totalement l'existence de ce long métrage. Dans tous les cas, c'est une expérience aussi de spectateur. En regardant les films, en essayant de comprendre... comment ils fonctionnent, de voir ce que l'on peut en dire. Alors, l'idée au départ, c'est d'abord de les réintégrer peut-être dans mon expérience de cinéphile. Par exemple, je sais que quand j'ai regardé Blow Up, en fait, j'ai commencé par un autre film d'Antonioni, qui est Le Désert Rouge, que je n'avais pas revu. Et Le Désert Rouge, qui est le film en couleur... Premier film en couleur d'Antonioni qu'il avait fait juste avant Blow Up, et de revoir Le Désert Rouge m'a aidé à entrer dans Blow Up. Voilà. De la même façon, quand j'ai vu le film de Duvivier, j'ai eu besoin de voir d'autres films, à la fois de Duvivier parce que je le connaissais mal, j'en connais maintenant 8 ou 10 grâce à Annick, et de voir d'autres films de la même époque. Renoir, Grémillon, des cinéastes de la même mouvance dite réalisme poétique des années 30, voilà. Même si c'est un peu plus compliqué que du... C'est pas juste du réalisme poétique, mais en tout cas c'est la mouvance à laquelle ils appartiennent. Donc l'idée, c'est à la fois de pouvoir présenter le film au public de manière à ce qu'il puisse situer le contexte dans lequel a été fait le film, qui est le cinéaste qui l'a réalisé, et également, en introduction, peut-être d'indiquer quelques signes, quelques détails auxquels faire attention dans les premières minutes du film. Alors bon, le grand exemple, c'est le plan séquence d'ouverture de La soif du mal, bien sûr.
Ouais.
Pour bien permettre aux spectateurs de repérer les quelques signes qui vont... d'une certaine manière, conditionner ou composer des indices de la forme et du fonctionnement du film. Après, l'idée, c'est après la projection, essayer d'apporter ce que je peux apporter en ayant vu, moi, le film 3 ou 4 fois pour un spectateur qui vient juste de les découvrir, qui n'a pas forcément envie de formuler quelque chose immédiatement après la vision. Et l'idée est de montrer... comment le film fonctionne, c'est-à-dire ce que le spectateur a vu, ce qu'il a ressenti, pourquoi l'a-t-il ressenti comme ça ? Essayer de comprendre, par exemple, dans le film de Duvivier, j'avais remarqué qu'il y avait extrêmement peu de chant contre chant entre les comédiens, et uniquement entre les comédiens. C'est un film où il y a des chants contre chants chaque fois que des comédiens s'adressent à des personnes qui pourraient constituer un public potentiel, en tout cas qui sont d'autres protagonistes de la société, mais dans le film, dans son intégralité, je crois qu'il n'y a que 4 chants contre chants et qui sont formellement très justes entre les comédiens. Mais sinon, Duivy a toujours fait en sorte que le collectif comédien soit représenté. Et ça contribue à ce que le spectateur a pu ressentir comme une étrangeté dans le film. Il n'a pas forcément pu le formuler parce que, de toute façon, une première vision n'est pas faite pour formuler, ne permet pas de le formuler. Moi-même, quand je vois les films sur lesquels je dois travailler, quand je les vois pour la première fois, je ne sais absolument pas ce que je vais en dire. Je sais qu'à la deuxième, à la troisième, ça va apparaître, mais au départ, je ne le sais pas, et c'est très bien. C'est l'expérience du spectateur de se laisser imprégner par sa première vision. Et l'idée, donc, est de lui dire, c'est peut-être à cause de cela, de la manière dont le film fonctionne, que vous l'avez ressenti de cette manière-là.
Mais tu nous donnes des clés, en fait, pour apprécier et pour voir le film, justement, d'une certaine manière, sans le subir, mais justement en comprenant peut-être la manière dont le réalisateur a voulu nous montrer certains points ou développer d'autres points ou de personnalités. Donc, voilà, c'est extrêmement intéressant de t'avoir là quand tu présentes des films.
Et on voit bien, là, au travers de ces échanges, quel point... c'est le mot, on doit vous remercier de contribuer à cette animation au cinéma pour les habitants de notre territoire, parce que vous y passez un temps fou. Là, ça a été très clair. Hein, c'est vraiment un investissement personnel. Puis alors, on voit quand on vous met côte à côte que vous vous répondez presque sans le savoir, parce que moi, au travers de ce que disait Pierre-Emmanuel, je me suis dit, tiens, mais il y a même des thèmes, le champ contre champ... Les plans séquences, on voit qu'il y a de quoi en faire.
Elle en parle, oui.
Il y a de quoi en faire un thème. Et puis alors, après, j'allais dire vice versa. Mais ça, on l'a plus expérimenté au travers des trois films que tu avais choisis. Alors, trois films qui aussi montrent ce qu'on disait, c'est-à-dire des époques différentes, des situations différentes, des âges différents pour nous. C'est sûr que Blue Up, on l'a vécu. Enfin, on l'a pas vraiment vécu, Blue Up, mais cette époque-là, on l'a complètement vécu. Bon, on n'a pas vécu le film avec le grand plan séquence, avec les mafieux. Ça, on l'a pas vécu. Mais là, on est en pleine histoire. Et puis, ce que tu disais sur le film plus patrimoine, selon moi, avant-guerre. Bon, là, c'est vraiment important, je pense, d'y revenir pour comprendre où on en est. Parce que je pense que sans ces films, on n'aurait pas eu la même histoire du cinéma, notamment du cinéma français.
C'est la vocation des ciné-clubs, et c'est pour cela que c'est bien que le ciné-club de la MJC existe. C'est qu'à une époque, on va dire dans les années 50, les années de la naissance de la cinéphilie, les ciné-clubs permettaient de voir des films qui n'étaient pas encore distribués en France. Ça arrivait un peu dans le désordre chronologiquement, films américains notamment. Ça a donné naissance à toute la cinéphilie qui elle-même a fait germer la nouvelle vague une dizaine d'années plus tard. Et aujourd'hui, les ciné-clubs, d'une certaine manière, permettent de remonter dans le temps aussi, non pas dans un souci, je dirais, purement patrimonial ou muséographique encore moins, mais simplement pour découvrir la variété des cinémas qui existent et qui peuvent encore nous parler aujourd'hui.
Bon, on me fait des signes désespérés concernant le temps qui passe, mais avec vous, le temps passe extrêmement vite. Alors par contre, à chaque fois, on fait un petit intermède musical, Esther qui commence à se dire, je l'ai prévenu, mais oh là là, mais de quoi s'agit-il? Et donc là, aujourd'hui, on va pas le choisir au hasard, et on va reprendre et partir d'une des leçons d'Esther. On va même parler des frères Cohen, d'accord? Il faut qu'elle devine le film où le pitch tourne autour d'un disque d'un groupe californien.
something everybody everywhere does in the same language.
Well, I can see by your coat, my friend, that you're from the other side. There's just one thing I got to know. Can you tell
purple berries? I've been eating them for 6 or 7 weeks now. Haven't got sick once. Probably keep us both alive. Yeah. Wooden ships on
Oui, bah Esther a deviné, hein, faut avouer que c'était facile. Hein.
T'as deviné,
Esther? Je ris, on va dire, c'est un film des frères Cohen qui n'est pas le plus connu, hein, Serious Man.
Non, du tout.
Mais il y en a qui l'aiment beaucoup, hein, je crois qu'Annick l'aime beaucoup.
Oui. C'est un film étrange.
Hein, et le pitch, c'est...
Parce que ça se situe vraiment dans le monde... juif, justement, des frères Cohen. C'est la première fois qu'ils abordent justement ce sujet, puisque ça se passe dans une communauté juive extrêmement presque orthodoxe. Et c'est un film qui est...
Une sérieuse critique, d'ailleurs.
Très intéressant. Non, c'est métaphysique, presque, ce film, moi, je trouve.
Et alors, pour toi, Esther, le film commence quand le fils de l'acteur principal se fait prendre une cassette. Et en l'occurrence, on lui rend à la fin du film, et la cassette, c'est une cassette de Jefferson Airplane. Mais ce n'est pas simplement ça, puisque une des actrices du film, enfin secondaire, est Grace Slick, la chanteuse, la merveilleuse chanteuse de Jefferson Airplane. Voilà, il faut faire un petit cours sur la musique.
Il faudrait que je le revoie, du coup.
Il faut. Bon, maintenant il nous reste un petit peu de temps pour parler de la programmation de la quinzaine à venir. Hein, je crois qu'il y a pas mal de films qui sont proposés grâce au jumelage. Hein.
Tout à fait.
Même deux films du jumelage lusophone. Annick, tu peux nous en parler?
Tout à fait. Donc, dans le cadre de la quinzaine lusophone, nous avons donc le plaisir de présenter donc vendredi 10, donc ce vendredi qui arrive, à 20h, un film de Gabriel Mascaro, voilà, un film de 2025. C'est un film qui se passe au Brésil, qui a gagné l'Ours d'argent au Festival de Berlin. Teresa a 77 ans. Et ça se passe dans un Brésil dystopique où les personnes âgées ne doivent plus peser sur la population active et sont invitées à quitter leur maison pour s'installer dans les colonies. Donc l'heure du départ va bientôt sonner pour elles, mais cette femme indépendante est encore un jambe, comme voulez-vous dire, s'y refuse de toutes ses forces. Donc avant sa retraite, elle veut réaliser un ultime rêve, voler. Aussi déjouant la surveillance, elle s'enfuit à travers l'Amazonie. Et ça rappelle un peu, bien sûr, un film dont vous avez entendu parler qui s'appelle, il avait déjà Soleil Vert, un petit peu, et plus récemment, le film japonais Plan 75, qui était un peu sur le même sujet aussi, qui se passait au Japon. Et ensuite, le lundi 13 avril, à 20h, le club ciné MJC vous présente donc dans le même cadre avec le comité Meleada, on vous présente Centro do Brasil, qui était l'Ours d'or de 1998, de Walter Salles. Alors Walter Salles, pour mémoire, c'est lui qui a fait Je suis toujours là, donc c'était son avant-dernier film, son dernier film, pardon, c'était une fresque familiale sur la dictature militaire qui a secoué le Brésil de décembre 60 à 80. Il a fait aussi Carnet de voyage, où il parlait de Che Guevara, à travers l'Amérique du Sud, c'est le plus éloigné. Et ensuite, on avait aussi Sur la route, du texte culte, bien sûr, de Jack Kerouac, avec Christine Stewart, Sam Riley et Ingrid Lam. Donc, ce film-là sera lundi, donc 13 avril, comme j'ai dit, à 20h, lors du Festival du film de Berlin en 1998. C'est la coproduction franco-brésilienne qui reçoit le prestigieux Ours d'Or face à des mastodontes, cette année-là, comme le Big Lebowski, Will Hunting ou Jackie Brown. Donc c'est lui qui l'emporte sur les frères Coen, Gus Van Sant, qui sort un film d'ailleurs, possiblement, et Tarantino. C'est le troisième long métrage, son troisième long métrage de ce réalisateur qui est issu du documentaire et qui s'était fait remarquer 3 ans plus tôt avec le thriller sur fond d'exil Terre lointaine. L'interprète principale, Fernanda Montenegro, a le prix de la meilleure actrice. Donc le pitch, c'est Dora, qui est ex-institutrice, gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Anna et son jeune fils Josué font appel à ses services pour retrouver le père de Josué. Lorsque Dora rentre dans son petit appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée. Elle en envoie certaines, elle en jette les autres et en garde une partie dans un tiroir. C'est ce qui arrive à la lettre de Josué. Quand sa mère meurt, renversée par un bus, Josué demande à Dora de l'aider à retrouver son père. Et d'abord insensible, Dora finit par accepter de l'aider. Voilà le pitch du film. Donc moi, je vous recommande. C'est un film qui est absolument magnifique. Donc c'est lundi 13 avril à 20h, présenté par le Club MJC et le comité Mio Mialada. Donc 2 films, ce vendredi qui arrive le 10 et lundi le 13, tous les 2 à 20h. Voilà.
Un vrai programme. C'est oui. Le troisième, hein, toujours de grande qualité.
Ouais.
Bon, ces films-là.
Voyage de Teresa n'est pas passé au cinéma de Millau, donc on l'a choisi exprès pour ça, parce que justement, c'était parce qu'une première de le passer. Intéressant à voir. Ouais.
Bon, dans le même ordre d'idées, le jumelage franco-britannique programme donc un film, un feel-good movie, et j'y reviendrai en parlant un petit peu du film. Mais je voulais aussi souligner que cette même semaine... Une semaine du 13 au 16, ou par contre au 17 avril, dans le cadre de la semaine, la Yorkshire Week, il y a une programmation de films pour les scolaires. Donc 4 matinées qui vont regrouper, c'est assez impressionnant, 1300 de nos jeunes, alors qu'ils vont aller au cinéma et écouter de l'anglais. Mais c'est quand même, je pense, une... Je cherche mes mots parce que c'est quand même pas un événement, mais presque, qui passe inaperçu, mais voilà, qui apporte de l'air aussi au cinéma, et puis aussi au jumelage. Donc des films connus, en fonction de l'âge des enfants, mais qui sont tous, je pense, de qualité, hein, puisqu'ils vont pouvoir revoir voilà, ces gros mythes. Bon, ça, c'est pour les plus jeunes, c'est aussi pour avoir un accès à l'anglais plus facile, avec des histoires qui sont compréhensibles. Après, Billy Elliot, que tout le monde a vu et aime revoir, d'ailleurs.
Oui, mais en anglais, ça va être différent aussi, anglais, ça, c'est important.
Et ça se passe dans le Yorkshire, donc, en plus. Et puis, pour les plus âgés, vont pouvoir voir ou revoir Imitation Game, hein, qui est quand même une histoire de la Seconde Guerre mondiale qui est passée inaperçue, mais qui était très, très importante, puisque c'est l'histoire d'un mathématicien super doué qui a inventé l'ordinateur et qui a réussi à déchiffrer Enigma, donc la machine de chiffrement allemand, et qui a contribué très largement à la victoire des Alliés. Bon, alors le film, par ailleurs, bon, le film programmé par le jumelage pour les plus grands, qui s'appelle L'improbable voyage d'Harold Fry.
Ah, je recommande. Hein, c'est un film feel-good.
C'est un feel-good movie, ouais. Hein, puisque c'est un retraité qui aurait pu être plus heureux, qui reçoit une lettre d'une de ses très anciennes amies qui lui dit qu'elle va mourir, et qui décide, après l'avoir lu cette lettre, d'aller la voir à pied, en lui disant « Surtout, ne meurs pas avant que j'arrive. » Voilà. Un excellent film.
Un pitch qui m'a surpris quand je l'ai découvert, dans la mesure où c'est une histoire qui est arrivée à un cinéaste allemand important qui est Werner Herzog. Et Werner Herzog, en 1975, a appris qu'une de ses amies, une grande critique de cinéma allemand, était hospitalisée à Paris et allait sans doute mourir. Et quelques jours avant la sortie d'un de ses films à Munich, Herzog a pris son sac et il est parti à pied de Munich à Paris en novembre-décembre, en se disant que s'il allait vers elle à pied, elle ne mourrait pas. C'est ce qui est arrivé.
Ah, c'est incroyable.
Il a fait le parcours en un peu moins de 2 mois. Effectivement, quand il est arrivé à l'hôpital à Paris, il a retrouvé son amie rétablie, une femme de 79 ans à l'époque qui a vécu encore 9 ans.
Extraordinaire.
Ah, merci Pierre-Emmanuel. Ça,
sur le cinéma.
J'étais très surpris de.
Ah, ouais, tout à fait. Ouais, je comprends bien. Bon, il nous reste peu de temps. On peut peut-être parler de cinéphilo, juste.
Oui, tout à fait.
Parce que bon, c'est aussi une initiative très importante.
Le mercredi 15 avril à 20h, on fait un cinéphilo avec Laetitia Delamarre, donc professeure de philosophie qui vient très, très souvent nous animer. Et là, on va passer Orwell 2+2=5, le documentaire sur les derniers mois de la vie de George Orwell et sur son œuvre particulièrement 1984, qui est ce livre que tout le monde utilise et réutilise de tous les partis politiques.
Abondamment
et
moment.
Souvent très mal.
Ah, ouais.
Et du coup, là, ça met en parallèle notre société et du coup, les préceptes de, enfin, les concepts que Orwell avait déjà réfléchi à l'époque. Voilà, je conseille de venir nombreux parce que ça va être très intéressant. Et le thème, c'est comment vivre dans un monde où la vérité n'aurait aucune valeur. Et je pense que ça va être une très bonne soirée, un très bon film et un très bon débat ensuite.
Ouais. Tu nous rappelles la date ?
Le 15 avril à 20h, mercredi.
Malheureusement, okay. Ce n'est plus une dystopie. Allez, au revoir à tous et à toutes.
Au revoir à tous, bon après-midi,
merci.
Profitez du soleil.